Bonjour, c'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Waouh, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Pour ça je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con cette histoire-là. En plus je sais pas lire.
Le 11 novembre 1918 à 5h15, la France et l'Allemagne signent l'armistice, mettant fin à 4 ans de combat ayant fait plus de 8 millions de victimes.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Délivrez-vous, votre rendez-vous mensuel sur Principe Actif, en compagnie des bibliothécaires de l'heure. Aujourd'hui, nous retrouvons Pauline.
Bonjour à tous, moi je suis de Verneuil.
Priscille.
De Breteuil.
Anne-Marie, pardon.
Donc Bibliothèque Anne-Franc d'Anville, commune nouvelle de Ménil-sur-Iton.
Et Amélie.
De Breteuil et notre collègue de Bourthe,
Sandrine. Et nous avons la technique.
Eh bien, l'ami JC, l'ami Thomas, rien de moins pour vous servir.
Bien. Bon, comme vous avez pu l'entendre en tout début de... juste après notre générique, nous venons de célébrer le centenaire de l'armistice de 1918. Il nous paraissait donc important d'aborder le thème du conflit durant les guerres avec nos coups de cœur, mais aussi avec notre invité. Nous avons le plaisir d'accueillir Michel Cossé, qui a fait carrière aux archives départementales de... Vous êtes sur le départemental de l'Eure.
Bonjour.
Bonjour Michel. Alors Michel est une passionnée d'histoire et elle nous parlera du rôle des femmes pendant la Grande Guerre. Et grâce à Pauline, nous terminerons sur une note poétique. Priscille, tu vas nous parler du quatrième roman d'Hélène Gestern, L'odeur de la forêt, qui a reçu le prix de feuille d'or de la ville de Nancy en 2016.
Tout à fait. Alors apparemment, ça se dit Hélène Gestern.
Excuse-moi.
Mais je faisais la même erreur que toi au début. Donc je vais vous parler de son roman qui s'appelle L'odeur de la forêt, qui est paru aux éditions Arléa. Alors il n'est pas paru là cette année, mais voilà, il parle justement... de la Grande Guerre, mais aussi de 39-45, qui fait vraiment un grand passage dans tout le siècle dernier. Nous sommes en fait avec Elisabeth Bathory, qui est historienne dans le roman, une historienne de la photographie, qui va pas très bien dans sa vie parce qu'elle a perdu son conjoint. Et dès le début en fait du livre, elle va se retrouver confrontée avec une personne qui lui apporte des correspondances d'Anatole Massy, un grand poète du siècle donc de 14-18. Le roman se passe de nos jours, hein. Elisabeth Bathory, elle est de notre époque. Et elle va vraiment être plongée dans ses lettres. Donc écrite par Alban de Wilcott à un grand ami d'Anatole Massy, et ça va être toute une correspondance accompagnée de photographies qui ont une grande valeur. Et il va y avoir une belle relation d'amitié avec cette femme qui lui a apporté ses lettres, qui va lui léguer sa maison de campagne. Et du coup, on va voir toute la reconstruction sentimentale de cette historienne grâce à ce nouveau challenge où en fait elle va essayer de retracer ce qui s'est vraiment passé pour ces deux hommes et pour tous les proches qui étaient avec eux dont on parle dans les lettres. C'est vraiment un récit dans lequel on se sent plongé du début jusqu'à la fin. Alors il est long, parce que il paraît pas comme ça, mais les pages sont assez fines. Mais c'est vraiment voilà un de ces romans un peu de type saga, on s'accroche vraiment au personnage et on est vraiment plongé dans le milieu donc de la photographie, de la Grande Guerre, etc. Mais par le biais de cette femme à laquelle on s'attache énormément. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce roman, c'est que tous les personnages, en fait, on les a à travers leur propre regard. C'est un récit donc à la première personne. Et on va avoir entrecoupé des lettres Les fameuses lettres, en fait, qu'elle a eues. Et puis d'autres, en fait. Et on va pas les avoir forcément dans le même ordre que elle dans l'histoire. Donc on va découvrir des choses avant elle et on va découvrir des choses après elle aussi. Et du coup, ça va vraiment être un petit jeu de pistes tout le long du livre qui fait qu'on accroche aussi. C'est remarquablement bien écrit. C'est vraiment, voilà, il y a des descriptions, et notamment au niveau des sentiments, le sentiment de perte du coup qui est très fort aussi dans ce livre, avec notamment autant les lettres que sa vie personnelle. Et c'est vraiment super poignant. En fait, c'est un lecteur qui est venu à la bibliothèque en nous disant que c'était un des plus beaux livres qu'il avait pas lu depuis 10 ans. C'est pour ça que je m'y suis plongée et j'ai franchement pas été déçue. Je vais vous lire du coup les première page, alors pas la première page, je commence à la deuxième. Donc ça commence par une lettre de justement Alban de Wilcott, et ensuite vous allez avoir une petite conversation d'Elisabeth l'historienne avec la femme qui lui donne toutes ses lettres. Je commence. Joigny, le 22 août 1914. Mon cher Anatole, j'espère que ma première lettre de soldat te parviendra sans encombre. J'aurais voulu t'écrire plus tôt, mais le rythme est exténuant. Nous allons de village en village, et pour éviter les attaques, nous marchons et nous bivouaquons de nuit. 14 kilomètres hier. Ça n'empêche pas qu'on se fasse tirer dessus à l'aube. Les troupes allemandes sont mobiles et rapides. Elles nous ont pris à revers avant-hier, en lançant contre nous des combattants cyclistes. Une escarmouche qui a coûté la vie au lieutenant de réserve. Nous avons perdu 12 hommes. Les gars de mon régiment sont de braves garçons. Des paysans pour la plupart, habitués aux rudes travaux de la ferme, et pourtant bien plus robustes que moi. Il y a aussi quelques fortes têtes, mais la guerre les matera. En vérité, nul ne sait ce qui nous attend. L'épuisement qui est le nôtre, à l'issue de ces journées sans répit, a cet avantage qu'il permet de ne pas trop penser. Donne-moi de tes nouvelles, mon ami, je les attends avec impatience. Avec toute mon affection, Wilcott. Alors ? m'a dit mon interlocutrice, ses mains tavelées versaient un thé doré dans une tasse en porcelaine de Sèvres. Malgré l'orage, inscrit dans le moindre repli de la peau, elle ne tremblait pas. J'ai refermé avec précaution la lettre en suivant la ligne fragile de la pliure et l'ai replacée dans l'album où elle dormait. Le papier était d'une finesse inquiétante, bien qu'il revît le jour pour la première fois depuis un siècle. J'ai retiré mes gants et croiser le regard d'Alix de Chalandard, qui a répété. « Alors ?» Je me suis massé la nuque. Ce n'était pas la première fois que je procédais à l'examen d'une archive photographique, puisque c'est l'une des tâches auxquelles me conduit régulièrement mon métier. Lors des expertises privées, il était assez fréquent de tomber sur des familles naïves ou avides, persuadées de détenir la perle rare. Mais ce qu'elle donnait à voir, la plupart du temps, n'était qu'une suite de clichés sans intérêt, des images plates et banales, au mieux susceptibles de trouver leur place dans une section des archives départementales. Cette fois, il en allait différemment. J'avais entre les mains l'album d'un poilu, qui avait envoyé pendant 2 ans et demi des cartes postales et des photographies qu'il avait lui-même prises de sa vie dans les tranchées. Il avait écrit aussi, presque chaque semaine, à sa sœur et à celui qui semblait être son meilleur ami, Anatole Massy, un éminent poète post-symboliste. Ce fonds était d'une valeur historique inestimable, un trésor comme il ne m'était arrivé d'en croiser que 2 ou 3 fois dans ma carrière. Il était évident que l'Institut devait se mettre sur les rangs sans tarder. Voilà du coup pour l'extrait d'Hélène Gesterne qui nous donne envie de lire la suite, en tout cas j'espère. Juste une petite précision, on y parle, elle écrit énormément autour de la photographie en fait, cette femme, c'est vraiment un thème récurrent chez elle, et on y voit vraiment dans ce roman du coup une belle expertise. On y apprend pas mal de choses, notamment sur les cartes postales de la guerre 14, qui servaient en fait de propagande. Toutes les cartes postales envoyées par les soldats les mettaient dans des postures assez héroïques pour faire croire que la guerre avait une belle issue. Et du coup, là on voit vraiment ce côté-là, et aussi les vraies photos que lui prend de la vraie guerre. Et il y a vraiment ce lien aussi qui est fait, qui vaut le coup. Voilà, je laisse ma place du coup à Amélie qui va vous proposer un témoignage cette fois-ci sur la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, donc bonjour à tous. Donc comme Priscille vous l'a précisé, on va passer de la Première Guerre mondiale à la Seconde avec un témoignage de Colette Brühl-Ullmann que je vais vous présenter. Le titre, c'est « Les enfants du dernier salut ». C'est un témoignage historique sur un réseau d'évasion d'enfants de l'hôpital de Rothschild pendant la Seconde Guerre mondiale, où Colette Brühl-Ullmann a été pédiatre en fait et a infiltré le réseau pour aider ses enfants à échapper au camp de la mort. Donc au niveau du contexte historique, on est en 1942. Donc le nazisme est bien installé et l'antisémitisme est au paroxysme avec la déportation, comme on le sait, de millions de juifs vers les camps de la mort. Et donc dans ce témoignage, Colette a 22 ans et elle est étudiante en médecine. Elle rêve de se spécialiser en pédiatrie, mais on sait que du coup les hautes études et les postes à responsabilité n'étaient pas pour les juifs. Pour pouvoir quand même atteindre son rêve et continuer à soigner les gens, elle intègre l'hôpital de Rothschild, le seul hôpital où les juifs peuvent encore exercer. Elle accueille du coup des adultes et des enfants juifs qui sont dans un état de santé très inquiétant et elle a pour mission de les remettre sur pied avant qu'ils soient déportés vers les camps de la mort. Drôle de mission, vous me direz. Colette découvre petit à petit et au fur et à mesure de conversations avec le personnel médical qu'il existe un réseau permettant de sauver les enfants. Donc sans réfléchir et au péril de sa vie, elle intègre le réseau pour sauver des vies. On ne fait pas s'évader un enfant comme ça. Ils sont étroitement surveillés par les Allemands. Il y a des registres qui sont tenus avec toutes les entrées et les sorties. Donc, pour justement éviter tous ces soucis-là. Et il faut du coup truquer les registres ou alors déclarer parfois décédés des nourrissons qu'on fait sortir par la morgue. Donc c'est vraiment un gros réseau qui se met en place. Et du coup, où tout le personnel qui contribue met vraiment sa vie en danger tous les jours. Donc ce témoignage, c'est pas seulement le réseau d'évasion qui est présenté, c'est aussi toute la vie de cette jeune adulte du coup juive. On suit sa famille, on suit du coup sa vie dans le nazisme, et du coup c'est une vie de famille parmi tant d'autres qu'on découvre à travers ce beau témoignage. Ensuite, quand elle restera jusqu'en 43, donc dans l'hôpital de Rothschild, et qu'elle devra quitter par la suite parce qu'elle va être repérée par un Allemand. Donc là, elle n'a plus le choix, il en va de sa vie. Et elle décide quand même de continuer à militer et elle s'engage au bureau central des renseignements et d'action avec son père. Après la guerre, elle reçoit la croix de guerre avec palme et devient pédiatre pour soigner un maximum d'enfants et tenter d'oublier tous ceux qui n'ont pas pu être sauvés. Mais bon, c'est une peine perdue comme elle l'explique. Elle n'a jamais plus oublié et c'est en se rendant compte qu'elle était le dernier témoin de ces années terrifiantes, à l'hôpital de Rothschild notamment, qu'elle a décidé de témoigner pour en faire un devoir de mémoire. Je vais vous lire un petit passage sur lequel on voit vraiment la façon dont elle a été recrutée, si on peut dire, et toute la mise en place du réseau pour faire s'évader un enfant. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement de prolonger le séjour des malades ou de truquer les diagnostics, mais de participer au sauvetage des enfants. Tout a commencé quelque temps après la grande rafle, alors que nos services commençaient à s'encombrer de malades, jeunes ou vieux. Un jour, j'entends une voix m'interpeller alors que je traverse le parc entre deux pavillons. C'est Claire Eman. « Colette, j'ai à te parler !» me dit-elle. Un rapide coup d'œil aux alentours avant de continuer la conversation d'un ton parfaitement anodin. « J'ai un service à te demander. Il faudrait sortir des enfants. Tu peux t'en charger ?»« Sortir ? Les enfants ?» C'est très clair. Cela veut dire les faire s'évader. Pendant quelques secondes, je sens monter une bouffée d'émotion. C'est donc elle qui dirige le réseau. Au fond, je ne suis pas si surprise. Assistante sociale, Claire Eman, c'est tous des enfants malades. Si certains membres de leur famille sont restés libres, elle peut les approcher et leur demander de les recueillir. Et s'il n'y a pas de famille, elle connaît tous les orphelinats, les associations religieuses ou laïques, tous les débouchés qui pourraient apporter le salut. Et puis, elle est sans doute l'une des mieux placées pour recruter des complices à l'intérieur de l'hôpital, comme elle le fait pour moi. C'est extrêmement risqué, c'est même fou, car ces gamins appartiennent à l'administration nazie. Ils sont prisonniers, fichés. J'imagine qu'avant d'organiser la sortie, elle doit rayer leur nom des registres, faire en sorte qu'ils ne soient jamais officiellement arrivés, effacer leurs traces administratives. Je réalise que c'est sans doute elle qui organise les disparitions de nourrissons à la maternité. En tout cas, et tout ça dans une annexe de Drancy, l'antichambre de la déportation, l'un des lieux les plus surveillés de France. N'importe quel directeur de prison le sait. C'est de l'infirmerie ou de l'hôpital que les détenus tentent le plus souvent de s'évader. C'est le cas dans tous les pays, dans tous les bagnes du monde. Feindre la maladie, se faire porter pâle, profiter de l'hospitalisation pour se faire la belle. Toutes ces pensées me traversent l'esprit alors que je la regarde. D'apparence, elle est insoupçonnable. Une jeune femme simple et tranquille, sérieuse et discrète. Mais c'est une chef de guerre qui prend tous les risques pour les enfants. J'accepte aussitôt. Quand ? Que faut-il faire ? Elle me sourit, l'œil brièvement posé sur mon étoile, sur la blouse, puis sur les allées autour de nous. Reviens ce soir, sans l'étoile. Je t'attendrai à mon bureau et je te dirai quoi faire. La journée se déroule sans incident. Je passe chez moi pour avertir que je rentrerai tard. Et lorsque je reviens, le soir, l'hôpital s'est doucement enfoncé dans la nuit. Le parc est vide, sombre. Seules quelques rares lumières brillent aux fenêtres de certains pavillons. Dans sa guérite, le policier de garde me salue vaguement, figé dans son ennui. Je n'ai vu qu'une partie de son visage éclairée d'une ampoule. Il doit croire que je viens prendre une garde de nuit. Mais une fois le porche passé, je me dirige, non pas vers le pavillon de médecine, mais vers celui où se trouve le bureau de Claire Eman. Tout est désert, mais pas résonne dans le couloir vide. Elle referme la porte derrière nous après un bref regard d'inspection. « Nous avons un peu de temps », me dit-elle en se rasseyant. « Tu dois t'occuper de deux enfants, mais je te les présenterai plus tard. J'espère que tu as de bonnes chaussures ?»« Normal », dis-je un peu surprise. « Pourquoi ?»« Parce que tu ne peux pas prendre le métro. Tu vas devoir marcher. Tu dois aller dans le 15e, rue d'Alleray, tu connais ?» Je ne m'y attendais pas. Mais bien sûr, ces gamins n'ont pas de papier. Il n'est donc pas question de prendre le métro. Trop dangereux à cause des contrôles. Claire me montre le trajet sur un plan. Descendre vers la Seine, remonter de l'autre côté jusqu'à la place d'Enfer Rochereau, puis filer vers le 15e, plus de 8 km. Autrement dit, pas loin de 2 heures de marche avec 2 enfants sur les bras. Marche normalement et ne regarde pas tout le temps autour de toi, me dit-elle en m'entraînant vers une petite pièce plus loin, où attendent 2 enfants que je n'ai jamais vus. La plus grande, la petite fille, doit avoir 6 ans. Elle devait attendre plus ou moins mon arrivée, car elle ne me paraît pas surprise. Elle est pâle, sans doute à cause de l'heure tardive, mais aussi sous l'effet de l'inquiétude. Son frère a moins de 3 ans. Il a à peine remarqué notre arrivée. « Alors, on va partir tous les trois ?» dis-je à la fillette avec un sourire tendu qui se veut rassurant. À vrai dire, je n'emmène pas large. Traverser la ville avec ses 2 gamins, en toute illégalité et avec ce que je risque. La petite fille hoche le menton sans dire un mot, les yeux remplis d'un mélange de terreur et de confiance qui me fait serrer le cœur. « Ne t'inquiète pas, » lui dit doucement Claire Eman. « Je t'ai expliqué. La dame qui t'emmène est très gentille. Tout ira bien. Il faut être courageuse, n'est-ce pas ?» Voilà, donc là vous êtes au cœur du réseau d'évasion. Et vous voyez un petit peu comment tout ça s'organise pour pouvoir sauver les vies de ses enfants. Donc je vais vous laisser en compagnie d'une petite pause musicale pour terminer ma partie. Et Priscille vous refera un petit rappel des livres présentés.
Thank you.
C'était Seven Nation Army de White Stripes.
Avons... C'est dingue, t'aimes pas lire. T'as pas lu Proust? Oh, oh là là, je te crois pas.
Donc, nous avons présenté juste avant L'odeur de la forêt d'Hélène Gestern, qui est paru en poche en janvier 2018. Donc, vous devriez pouvoir le trouver en librairie. Et Les enfants du dernier salut de Colette Brühl-Ullmann. Les deux sont en rayon à Breteuil et dans plein d'autres bibliothèques si vous les demandez. Et je laisse la place du coup à Anne-Marie et notre invité Michel Cossé pour un petit tour dans le rôle des femmes dans le conflit 14-18.
Michel, vous êtes retraité des archives départementales de l'Eure, vous êtes passionné de généalogie et souvent sollicité pour effectuer des recherches historiques concernant les communes de l'ancien canton de Danville. Parlez-moi de votre tante Jeanne.
En 2014, le Centre généalogique des Côtes d'Armor, dont je suis membre, a fait appel à des témoignages concernant la guerre de 14-18. J'ai proposé à tout hasard un texte concernant ma tante paternelle, Jeanne Denis, qui avait fait l'objet d'un article dans le journal de la Dépêche Normande en 1916. J'ai voulu ainsi lui rendre hommage et aussi rendre hommage à toutes les femmes qui se sont retroussées les manches, relevées les jupons et portaient même le pantalon pour remplacer les hommes partis sur le front défendre la nation.
Alors, en effet, le 7 août 1914, le président du conseil de l'époque, René Viviani, lance par ailleurs un appel aux femmes de France pour qu'elles remplacent sur le champ de travail ceux qui sont partis, qui sont sur le champ de bataille.
En effet, cet appel fut entendu à la ferme des Crières au Beau-Sainte-Croix, chez Madame Veuve Hardy, restée seule pour diriger et exploiter 110 hectares de terre, suite au décès de son mari, qui avait été tué par un coup de pied de cheval, et de son beau-fils face à l'ennemi en 1915. Dans son malheur, elle fut secondée par mes deux tantes paternelles, originaires de Bretagne, Jeanne et Marie Denis. Ma famille paternelle avait fui la Bretagne, où sévissait la misère et le chômage à la fin du XIXe siècle, pour trouver du travail en Normandie, comme beaucoup de familles bretonnes.
Quelle a été la contribution de Jeanne à l'effort de guerre en milieu agricole ? Alors.
Ma tante a remplacé le charretier. Mobilisée dès le début des hostilités, elle a conduit comme un homme, habillé d'un pantalon une révolution pour l'époque, de gros chevaux percherons pour labourer, semer, moissonner. Voilà, c'est tout.
Donc dans le journal, la dépêche normande de l'époque, elle est citée comme étant une robuste gaillarde de 26 ans. A-t-elle été récompensée pour les services rendus à l'agriculture pendant la guerre ?
Elle a eu l'honneur de recevoir un diplôme décerné par le Conseil général de l'Eure que celui-ci avait institué pour récompenser les femmes courageuses, les enfants et les anciens qui avaient remplacé les ouvriers agricoles pendant la guerre.
Alors, après la guerre, Jeanne est-elle retournée derrière les fourneaux ?
Oui, comme toutes les femmes qui avaient remplacé les hommes, soit dans les usines, soit dans le milieu agricole. Comme toutes les femmes, d'ailleurs, elles étaient priées de retourner chez elles pour avoir des enfants et repeupler la France. Avec son mari, elle s'est mariée en 1920 avec Paul Regnault et ils achetèrent une petite ferme à Coulonges sur la commune de Sylvain-les-Moulins actuelle où elle vécut jusqu'à sa mort en 1965.
Merci Michel.
Oui. Si je peux me permettre, pour compléter vos dires, je vous invite à lire « Les femmes au temps de la guerre de 14 » de Françoise Thébault, dont la préface a été faite par Michel Perrault et qui écrit « Des hommes bloqués au front redoutent d'être trompés, usurpés, renversés par ces femmes qui, dans leur dos, pénètrent le secret de leurs affaires et de leur métier. Ils ont peur d'être dominés, possédés par celles qui les soignent comme des enfants. »
j'étais meilleur que ces gens. Si j'avais été et qu'on nous sépare bien toi et moi si possible très longtemps. D'avoir à choisir un camp.
Vous venez d'écouter « Néant 17 » à Leidenstadt de Jean-Jacques Goldman.
Aborder le sujet de la guerre avec les enfants n'est pas toujours une chose facile. C'est pourquoi je vous propose une BD, « La guerre des Lulus ». C'est une BD d'aventure, le scénario est de Régis Houtière, les dessins de Hardoc et les couleurs de David François. Mais également de Hardoc et les costumes de Donald Carwell. Non, c'est une blague. Ça, c'est pour les plus vieux. Blague à part. Donc, on va parler des Lulus. La guerre des Lulus, ça ne vous fait, ça ne vous fait pas penser à quelque chose ?
La guerre des boutons ?
Bien, Priscille. En effet, la guerre des boutons. On retrouve cette ambiance de copains qui font les marioles, rivalisant d'imagination pour les bêtises. Mais la guerre à laquelle ils sont brutalement confrontés est une vraie, une guerre des grands, celle de 1914. Je vous présente ces Lulus et vous allez comprendre pourquoi on les surnomme ainsi. Nous avons Ludwig, l'intellectuel, Lucas, le plus jeune, un peu naïf, Luigi, gourmand rondouillet, et Lucien, le débrouillard révolté. Ce sont quatre pensionnaires de l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en Picardie. Le tome 1 s'intitule « La maison des enfants trouvés ». L'histoire débute en été 1914, l'abbaye est évacuée manu militari, mais les Lulus qui ont une fois de plus fait le mur manquent à l'appel. Ils se retrouvent alors isolés à l'arrière des lignes allemandes, livrés à eux-mêmes en territoire ennemi et doivent s'organiser pour survivre. Dans un premier temps, ce chaos est une aubaine. Les Lulus se retrouvent sans adultes, libres, tranquilles dans leur petite cabane au fond des bois. Mais ça se complique lorsqu'ils doivent devenir vraiment autonomes, quand les réserves alimentaires s'épuisent et que l'hiver arrive. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc le scénario est à la fois drôle, touchant. Cette série compte actuellement 6 tomes. Dans les 5 premiers tomes, les auteurs ont choisi de faire un album par année de guerre. Mais comme il manquait un épisode à la fin du tome 3, leur séjour en Allemagne en 1916, un tome 6 est sorti en juin dernier, La perspective de Luigi, partie 1, dans laquelle le dessinateur Cuvillier, a remplacé Hardoc. On attend donc la partie 2, La perspective de Luigi. Cependant, quand on aime, on ne compte pas, la série ne sera pas pour autant finie puisque nous retrouverons l'après-guerre des Lulus en 1919. 4 prochains tomes. Pardon ?
J'avais pas vu qu'ils avaient écrit la suite, c'est trop bien.
Ça vient de sortir.
Elle est vraiment chouette cette petite série.
Donc on aura effectivement, donc après le deuxième tome, enfin la deuxième partie des Luigi, de la perspective de le jouer, 4 prochains tomes. Apparaître. Donc c'est une série remarquable au rythme soutenu avec des personnages attachants, avec lesquels on tremble, on rit, on s'amuse. Elle est riche et facile d'accès, adaptée pour les jeunes, dès le collège je pense. C'est un outil idéal pour aborder ce thème délicat. Bref, une bande dessinée qui mérite vraiment que l'on s'y attarde plus qu'un moment. Je vous propose une deuxième BD, ce qu'on va faire dans les BD aujourd'hui pour rigoler un peu, enfin... pour amortir un peu le sujet grave. Donc là, c'est plus une BD pour adultes, ados, plus de 16 ans. Ça s'appelle 14-18, chez Delcourt, un scénario de Corbéran, dessin d'Étienne Leroux, décor de Loïc Chevalier et couleur de Jérôme Brizard. Donc c'est également une BD d'aventure qui aborde avec réalisme le quotidien des soldats. Le 1er août 1914, Louis, Jacques, Maurice, Armand, Denis, Arsène, Pierre et Jules sont mobilisés. Ils sont 8, âgés d'une trentaine d'années, issus de la même petite ville et affectés dans le même régiment d'infanterie. Ensemble, ils découvrent les premiers combats, les premiers doutes et les premiers ordres absurdes, point de départ de 4 longues années dont certains reviendront et d'autres pas. Le tome 1 s'intitule « Le petit soldat », août 1914. Il commence par un prologue de 3 planches. Nous sommes en février 1919. Un couple dont l'homme est emmitouflé dans son manteau arrive chez son médecin. Il lui manque la moitié du visage. C'est une gueule cassée. Au travers des illustrations et des dialogues, on ressent toute la souffrance endurée par cet homme, mais aussi par son épouse.
Il s'agit d'un des personnages principaux que nous retrouverons dès la page 6, 5 ans auparavant. Nous sommes alors transportés au 1er août 1914, où l'on perçoit les rapports amicaux, sentimentaux ou rivaux des 8 protagonistes, dans leur village de campagne, lors d'une fête foraine. Le temps s'arrête lorsque le garde champêtre fait l'annonce de la mobilisation, puis s'accélère avant le départ, 2 jours plus tard, même si chacun est persuadé qu'il n'y en a que pour quelques mois ou plus. Alors le désenchantement arrive dès les premiers jours, et les réactions humaines, peur, envie de fuir, tentative de faire face et d'y croire, sont magnifiquement décrites. Les différents tomes aborderont le déroulement de la guerre, aussi bien vu du front que de l'arrière, où les femmes doivent s'organiser pour que la vie continue, comme nous avons effectivement pu le voir avec Michel. Dès le début de la lecture, on se retrouve dans l'ambiance et le phrasé de l'époque, et du coup on se sent de suite absorbé par l'histoire. Mais c'est également une BD où l'on s'interroge sur le rapport à la hiérarchie. Doit-on obéir aveuglément ? A-t-on le choix ? Les planches sont superbes, le dessin est somptueux, réaliste, avec une certaine rondeur qui lui donne un côté plus vivant, plus humain. Bref, une série de 10 volumes, qui est actuellement terminée, dont le tome 10 est paru le 10 octobre dernier. Une série qui a pris son temps pour traiter de cette période particulière.
Merci Sandrine.
Maintenant, on va voir Anne-Marie va nous parler d'un documentaire, Bête de guerre.
Alors, le Bête de guerre donc, a été écrit par Patrick Bousquet et Michel Gia. Donc, ce sont des auteurs reconnus puisqu'ils sont, ils ont déjà fait paraître beaucoup d'ouvrages chacun. Michel Gia est plutôt spécialisé dans l'histoire maritime de la Normandie, donc historien, conférencier, chroniqueur et grand voyageur. Et Patrick Bousquet bien aussi, est connu aussi parce qu'il est passionné par l'histoire des deux guerres mondiales. Donc cet ouvrage, voici la petite dédicace des auteurs, à tous les enfants de ce siècle pour qu'ils comprennent que le devoir de mémoire appartient à chaque génération. Donc ici, il s'agit de faire un bestiaire de la place des animaux dans la guerre. Donc avec le film Cheval de guerre, on montre la réquisition et l'utilisation des chevaux en temps de guerre, mais il y a aussi eu plus de victimes parmi les mulets, les ânes, utilisés à des tâches variées, donc le transport de planches, le transport des mitrailleuses, de barils d'eau, de tonnelées de vin, et ils étaient aussi chargés de retrouver les blessés, capable donc de tirer une civière sur roue. Il faisait office d'ambulance. Dans des secteurs moins faciles d'accès, on a utilisé les chiens. Les chiens ont rendu d'innombrables services par leur vigilance. Ils étaient porteurs de messages, gardes, protection, bien nourris, bien entraînés, mais aucun statut officiel. Chiens de patrouille, chiens de recherche, chiens sanitaires. Également chargé de retrouver les blessés puisqu'ils pouvaient aller dans des endroits plutôt inaccessibles. On a aussi les pigeons, l'exemple des pigeons donc qui étaient porteurs eux aussi de messages. En 1915, ils étaient moins de 1500, 20 000 deux ans après et 300 000 dans toutes les armées. Le plus célèbre, c'est Vaillant. Voilà, pigeon vaillant, matricule 787.15. Donc lui est parvenu à rejoindre Verdun où la situation était dramatique. Alors un petit extrait pour vous dire également les conditions effroyables dans lesquelles nos poilus vivaient. Les rats, page 184. Les rats grouillent dans les tranchées où ils trouvent largement de quoi se nourrir et se multiplier. On verra très vite les soldats adopter des chiens ratiers pour s'attaquer à ces terribles rongeurs qu'ils appellent familièrement Gaspard. Curieusement, le journal Le Miroir consacre dans son numéro du 26 décembre 1915 une page très inhabituelle avec 6 photos sur ce sujet. Donc l'ouvrage est agrémenté effectivement de quelques photos disséminées un peu partout dans le livre. La manchette du reportage donne le ton. Les sports sur le front. La chasse aux rats. Le commentaire sous les clichés rappelle que les soldats doivent sérieusement s'organiser pour lutter contre ce fléau. Pour s'en débarrasser, un commandant a eu l'idée d'accorder à ses hommes une prime de 5 sous pour 20 rats tués. Bon, évidemment, pour éviter le risque de tricherie, l'officier leur avait demandé de lui ramener la queue des rats. En quelques jours, 2000 rongeurs ont été capturés. Ce qui donne lieu à d'effroyables tableaux de chasse. Alors, sauf que, bon, ça a été très difficile pour les rémunérer. Donc, l'administration militaire, c'était un peu éparpillé dans la paperasserie, ce qui fait que cette belle initiative fut vite reléguée aux oubliettes. Voilà. Donc c'est vrai que c'était une cohabitation avec toutes sortes d'animaux. Donc les ânes, les vaches, les chameaux, les dromadaires, les chiens de traîneau, même un ours qui est devenu la mascotte d'un régiment russe. Donc il y a ces grands animaux et puis les plus petits qui ont martyrisé les combattants des deux camps, poux, puces, rats qui pullulaient dans les tranchées. La guerre, décidément, quelle sale affaire pour tout le monde, sauf pour les marchands d'armes, bien entendu.
Et donc, pour en revenir au Pigeon Vaillant, donc le dessin animé est tiré d'une histoire vraie, du coup. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Vaillant.
Tout à fait.
D'accord.
Je connaissais le dessin animé, mais effectivement, je n'avais pas en tête qu'on avait utilisé les pigeons pour la guerre 14-18. Pour moi, c'était encore avant. On en était encore aux pigeons, au final. Ouais,
tout à fait.
Passing by, listening to the wind of change. Tomorrow.
Nous venons d'écouter Why Not Change de Scorpion. Vous pourrez retrouver donc les BD de La Guerre des Lulus à Danville et à Bourthe.
Et à Breteuil.
Et à Breteuil. Pardon, je me suis trompée.
Je n'ai pas La Guerre des Lulus.
Non, alors, voilà. La Guerre des Lulus à Breteuil et à Bourthe. Et la BD 14-18 à Danville et à Bourthe. Quant au documentaire Bête de guerre, il est Bête de guerre 1914-1918 présenté par Anne-Marie de Patrick Bousquet et Michel Diard. C'est aux éditions de Bourré 2018 que vous trouvez à Danville. Pauline, tu vas nous présenter le roman Pax et le petit soldat ?
Tout à fait, c'est un roman pour adolescents. Donc c'est Pax et le petit soldat, écrit par Sarah Pennypacker et joliment illustré par John Klassen. C'est un roman d'apprentissage publié en 2016 chez Gallimard Jeunesse. Il a reçu quelques prix, notamment le prix du meilleur roman jeunesse en 2016 par Publishers Weekly, ainsi que le prix des libraires du Québec. Alors pour être honnête, au départ j'avais pas trop envie de lire ce roman qui commence ainsi. La guerre approche et le père de Peter l'oblige à abandonner son renard apprivoisé en pleine forêt. Donc déjà le préambule me brise le cœur. Parce que j'imagine tout de suite ma petite chienne à la place du renard, d'autant plus qu'elle ressemble au renard de la couverture. Mais bon, étant une bonne bibliothécaire sérieuse, je me suis lancée et j'ai lu ce livre. Alors oui, tout au long du texte, je me suis mise à la place de Peter, déterminée coûte que coûte à retrouver son renard Pax. Les chapitres alternent entre le point de vue de Peter, fuguant de chez son grand-père, et celui de Pax, le renard, qui ne comprend pas pourquoi son humain ne revient pas le chercher. Et en toile de fond, la guerre. Enfin, une guerre. Parce qu'on ne sait pas à quelle époque se déroule l'histoire, ni où, ni les raisons du conflit. Et à vrai dire, on s'en fiche. La guerre, ce n'est que l'élément perturbateur dans la vie de Peter et de Pax. Mais cela n'empêche pas l'autrice de dénoncer ses absurdités et les conséquences sur la nature et les animaux qui en sont les dommages collatéraux. Pour ça, on rejoint un peu le documentaire d'Anne-Marie. Au final, c'est un livre de guerre pour ceux qui n'aiment pas les histoires de guerre. Ce qui ressort de la lecture, c'est avant tout le lien indéfectible entre le garçon et l'animal. C'est un roman sur la liberté, l'amitié, le poids de la culpabilité et le respect de la nature. À conseiller à partir de 10-11 ans pour les bons lecteurs. Voilà, c'est un roman assez dense. Alors je vais vous lire un petit extrait qui est le tout début du roman. Donc le premier chapitre qui est du point de vue de Pax, le renard. Le renard sentit avant le garçon que la voiture ralentissait, comme il sentait toujours tout en premier. À travers ses coussinets, sa colonne vertébrale, les poils tactiles de ses pattes. Les vibrations l'informèrent également que la route était devenue chaotique. Il se dressa sur les genoux de son garçon et flaira les odeurs qui filtraient par la fenêtre, ce qui lui apprit qu'il voyageait à présent dans une région boisée. Les senteurs aiguës des conifères, bois, écorces, pommes de pin aiguilles, coupaient l'air comme des lames. Mais en dessous, le garçon reconnut la douceur du trèfle et de l'ail sauvage et des fougères, ainsi que des dizaines d'autres choses qu'il n'avait jamais rencontrées, à l'odeur verte et pressante. Le garçon sentit quelque chose lui aussi. Il ramena son animal contre lui et pressa plus fort son gant de baseball. L'angoisse du garçon surprit le renard. Les rares fois où ils avaient voyagé en voiture auparavant, le garçon s'était montré détendu ou même excité. Le renard enfonça son museau dans la paume du gant, même s'il détestait l'odeur du cuir. Son garçon riait toujours quand il faisait ça. Il allait refermer le gant autour de la tête de son animal, faire semblant de se battre contre lui, et ainsi, le renard le distrairait. Mais aujourd'hui, le garçon souleva son renard et enfuit son visage dans la fourrure blanche de son cou, le serrant fort contre lui. Alors tout au long de la lecture, on ne cesse de se poser une question. Et vous, risqueriez-vous tout pour retrouver votre animal? Je ne vous dis pas si Peter finit par retrouver Pax ou pas, à vous de le découvrir dans Pax et le petit renard.
Une petite note poétique ?
Tout à fait. On va finir ce thème un peu dur. Je vais vous lire Le Nuage Bleu, qui est un album de Tommy Ungerer. Donc pour info, Tommy Ungerer, auteur d'albums jeunesse, qui a vécu en tant que jeune garçon la Seconde Guerre mondiale. Donc il connaît assez bien le sujet. Le Nuage Bleu. Il était une fois un petit nuage bleu. Il vivait heureux, la lune était son amie. Il ne suivait jamais les troupeaux de nuages. Il allait au gré de son envie. Par mauvais temps, il refusait de se laisser pleuvoir. Et pendant les orages, il se moquait des autres nuages qui essayaient de le foudroyer de leurs éclairs. Les cerfs-volants qui le traversaient ressortaient tout bleus. Les oiseaux aussi. Et même les avions. Comme il ne pleuvait pas, le nuage bleu devenait de plus en plus gros. Curieux de voir le monde, il entreprit un voyage, bleuissant tout sur son passage, le sommet des montagnes et la pointe des gratte-ciel. Il devint célèbre. Son arrivée, son passage, était annoncé dans les journaux et la télévision. Il était très à la mode. Certains voyaient en lui un messager de l'inconnu. Il fut bientôt vénéré. Un jour, tandis qu'il flottait paisiblement dans l'espace, il vit monter devant lui un gros nuage de fumée noire. Intrigué, il s'approcha et découvrit une ville qui brûlait. Il s'approcha plus près encore. Ce n'était que carnage et pillage. Les blancs tuaient les noirs assassinaient les jaunes trucidaient les rouges et les rouges exécutaient les blancs. Horrifié par tant de violence, le nuage bleu prit une grande décision. Pour éteindre le brasier, il se laissa pleuvoir à verse. Ce fut un déluge bleu. Il se vida jusqu'à la dernière goutte et disparut. L'averse avait éteint le feu et tout coloré en bleu. Maintenant, tout le monde était de la même couleur. La paix fut instantanée et on fit la fête. Une nouvelle ville émergea des ruines. Une ville dont les bâtiments étaient peints en bleu, en souvenir du nuage bleu qui s'était sacrifié. Tommy Ungerer. Petite virgule peut-être. Merci. Voilà, nous vous avons donc présenté une sélection de livres traitant de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et parfois même de conflits indéfinis. Et bien sûr, en ce 13 novembre, nous ne pouvons que penser aux commémorations des attentats de Paris. C'était il y a maintenant 3 ans, jour pour jour. Le mois prochain, le thème sera un peu plus léger et plus vaste, c'est promis, puisque nous vous présenterons la sélection du prix des dévoreurs, émission spéciale littérature jeunesse donc. Et enfin, petite info, si jamais vous cherchez à occuper vos 2 samedis prochains, les bibliothèques de Breteuil et de Verneuil vous proposent des projections de films dans le cadre du mois du documentaire. Donc samedi cette semaine, samedi 17, à Verneuil, nous vous proposons Une bouteille à la mer, un documentaire sur l'alcoolisme à 18h. Et Priscille, samedi prochain à Breteuil ?
Oui, le film Quand j'avais 6 ans, j'ai tué un dragon, donc qui parle d'une petite fille atteinte de leucémie. Mais alors, c'est pas du tout larmoyant, je vous promets. En présence de Bruno Romy et peut-être d'une petite surprise aussi. Donc c'est à 18h.
Voilà, les deux films à 18h et bien sûr gratuits. Nous espérons donc vous voir nombreux et sinon rendez-vous le 11 décembre prochain pour un Délivrez-vous spécial dévoreur. Au revoir.
Au revoir. Oh, life ain't a ding-dong.
If I could take you up in boom, boom, boosh, boom, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart.